Alors, il y en a ras-les-bol. Un nouveau jour de grève et des journalistes qui nous prennent en otage, nous, les auditeurs de Radio France. Non, je déconne. Courage à tous et nous sommes vraiment beaucoup à vous soutenir. Olivier de Vienne.
Bonjour, je suis une Claveloup de Saint-Genis-Laval. Au printemps 2003, 200 000 personnes dans la rue pour crier leur révolte, combattre. Et tout cela pour rien. Si, pour être trahi par un syndicat populaire. Rien n'arrête ce gouvernement dans ses régressions sociales. Rien ne l'arrête dans ses désengagements. Je soutiens les journalistes de Radio France dans leur lutte et non dans leur grogne, bien qu'il me manque évidemment. Je soutiens aussi tout le personnel de Radio France. J'espère que chacun des auditeurs comprendra que la réponse du gouvernement, dès le début de leur grève, est plus qu'inquiétante pour les journalistes, pour la liberté d'expression du service public, donc pour nos libertés à tous, et, une fois de plus, pour la démocratie, qui est de plus en plus malmenée depuis mars 2002. Attention. Je précise que je ne suis pas fonctionnaire, j'exerce en profession libérale, et ce n'est pas facile non plus. Allez, bonne émission à tous, si on vous entend aujourd'hui, ce lundi 9 février 2004.
J'appelle parce que ce qui fait le gouvernement en ce moment, c'est pas bien. C'est pas bien parce que quand il y a eu des grèves l'an dernier pour les retraites, les journalistes, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour apporter leur soutien au gouvernement. D'abord, ils ont pas parlé au début quand ça se passait en Gironde, ils ont fait janvier-février, ils ont rien dit. Puis après, ils ont fait un gros effort de pédagogie pour expliquer qu'il fallait mettre fin à ces retraites dont bénéficient certains nantis. Alors, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils ont fait des micro-trottoirs où ils donnaient la parole aux usagers qui en avaient ras-le-bol. Après, il y a eu des téléphones sonnent où est-ce qu'on mettait la pression pour au moment du bac. Là, il fallait bien, ils ont bien fait paniquer les gens comme il fallait. Et donc, moi, je trouve que maintenant, c'est pas bien qu'on les traite de cette manière, parce qu'on dirait des valets, quoi, dans des comédies. Je crois que du fond du cœur, quoi, ce que fait le gouvernement, c'est pas bien. C'est pas bien parce que, moi, je pense que c'est de l'ingratitude par rapport au rôle qu'ils ont joué l'an dernier. On traite pas les gens comme ça, quoi. Vraiment. Je suis très déçu du gouvernement. Parce que vraiment, les journalistes, l'an dernier, ils ont fait un super boulot. Allez, salut!
Je suis très frappée de ne plus entendre un mot très à la mode, grogne. Quand d'autres catégories professionnelles se battent pour leurs droits, pour la défense du service public, dans les écoles, dans la santé, à la SNCF, à la Poste, etc., ce sont des gens qui sont en grogne, les pauvres, comme s'ils avaient un petit peu mauvais caractère, des vapeurs. Alors que là, non, il s'agit d'un vrai conflit, de vrais problèmes, de vraies défenses. Alors, quand même, un petit peu plus d'objectivité à l'avenir, peut-être, avant qu'on nous démolisse tout complètement. Et réfléchissez bien quand vous faites vos commentaires. Merci.
Des bémols, des critiques, des soutiens, beaucoup de soutien sur le répondeur de la base, si j'y suis, à la grève des journalistes de l'information qui continue à Radio France, non seulement sur France Inter, mais sur France Info. Et je rappelle encore une fois que l'équipe de la base, si j'y suis, soutient et solidaire de ce mouvement de grève. Aujourd'hui, retour sur un petit miracle. Même pas un petit miracle, un grand miracle, et quelque chose qui est arrivé à un homme de façon tout à fait, imprévu. Voilà, le mot qui convient tout à fait, c'est imprévu. Et j'ai voulu qu'on écoute à nouveau cette histoire parce que c'est une histoire qui montre qu'on a un devenir, oui. Et en ces temps où tout le monde morfle et tout le monde ronchonne et tout le monde c'est pesant, hein, il y a beaucoup d'échos très pesants, notamment sur le répondeur d'ailleurs. On a pensé que c'était une heure qui pouvait nous regonfler un petit peu. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base. Ah oui, je voudrais dire deux choses. La première, c'est qu'il faut pas nous en vouloir quand on passe pas vos messages. On en reçoit beaucoup et on fait un tri soigneusement avec Christophe et on peut pas tout passer. Alors faut pas nous en vouloir si vous avez mis un message, vous y tenez beaucoup. Ben voilà, c'est des choix. Puis peut-être qu'on en garde qui passe plus tard. Parfois. Et puis alors autre chose aussi, c'est les mains libres. Quand vous êtes en voiture et que vous, je suppose évidemment que c'est très agréable. On est en bagnole, on écoute la radio et toc, on fait le numéro du répondeur. Et mais alors faites très attention à la prise de son. Je sais pas comment ça marche exactement, où est le micro dans ce cas-là. Mais très souvent c'est brouillé, c'est pas très clair. On peut pas utiliser ce genre de message. Voilà, je voulais vous dire tout ça. Autre message donc. Avant de revenir sur ce petit miracle, le numéro du répondeur, je le répète encore une fois, c'est le 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Francis à Calvi, France Télécom, Sud PTT, Attaque. Tu fais bien de faire une émission sur le chômage, parce que bientôt le chômage, nous autres, ça va nous concerner aussi. Nous sommes fonctionnaires à France Télécom. On a une entreprise qui va supprimer 14 500 emplois cette année 2004, dont 8 800 en France. On avait hurlé après, comment ça s'appelait, Michelin, le mauvais, le méchant Michelin qui virait 7 500 personnes. Et ben nous, on en fait 14 500 dans le monde cette année. C'est vrai, c'est dans le monde. On en a fait quand même 40 000 en deux ans, les deux années passées. Et ça, c'est passé complètement à la trappe. Personne n'en parle. Silence radio là-dessus, l'État est actionnaire, France Télécom, le fleuron de l'industrie française, tout va bien. Nous, entre autres, on a des restructurations et puis on a eu un suicide aussi. Tout va bien, France Télécom en Corse, c'est la révolte dans le personnel. Et on a licencié notre directeur, on l'a foutu à la porte de la direction lundi dernier. Voilà, donc à bientôt pour la suite des opérations. Salut.
Oui, bonjour Daniel, Mohamed, 25 ans, quelque part en banlieue. Pour citer un politique français bien connu, je voulais juste dire que aujourd'hui le chômage n'est plus une fatalité, c'est juste un détail de l'histoire. Voilà, un gros bisou à tout le monde.
Entendu dans le métro, des pickpockets sont susceptibles d'agir dans cette station. Veuillez surveiller vos effets personnels. Pas entendu dans le métro. Alain Juppé est en train de fouiller vos poches. Veuillez surveiller vos effets personnels.
Bonjour à tous. Je suis très ému. Je viens d'apprendre sur France 2 que le 16 janvier, un de les mines en France, un jeune homme s'est fait asperger d'essence, puis on lui a mis le feu. Il est dans le coma, il est brûlé au troisième degré. Son crime ? Il est homosexuel. Dans quel pays nous vivons? Je suis très ému, hein, parce que après Souad, Sébastien se font brûler vifs, parce qu'ils veulent vivre normalement. Je rappelle qu'on est en France quand même, au XXIe siècle. Et pendant ce temps-là, ben, la France entière est pendue devant la télé à écouter, entre guillemets, l'homme d'État indispensable. Donc mes pensées vont aux parents et aux compagnons de Sébastien, je pense que c'est son prénom. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, au revoir.
Bonjour, c'est Jean-Louis de Laval. Alors il paraît comme ça que Jean-Pierre Raffarin a entendu l'appel de l'abbé Pierre concernant la mauvaise qualité de logement pour beaucoup trop de personnes en France. Mais moi je croyais qu'il avait déjà, ça n'était déjà occupé, parce qu'il y a à peu près un an, il nous a baissé les livrets d'épargne de 1,5%. Il s'en rappelle pas? Qu'est-ce qu'il en a fait alors de ce 1,5%?
Bonjour Daniel. Ton émission d'hier, le sociologue Michel Pialou, à propos du chômage qui s'accroît d'année en année à travers nos générations. Moi, je viens simplement te dire, cher Daniel, que M. Pialou a écrit la préface d'un livre qui vient récemment de sortir, Les carnets d'un intérimaire de Daniel Martinez. Il raconte sa vie d'intérimaire pendant les années 85-90, quel combat à travers la vie. Et j'aimerais que les auditeurs de France Inter puissent le découvrir et le lire comme moi, qui a beaucoup aimé ce livre et qui parle de notre combat de la vie, parce qu'il faut se battre chaque jour, Il faut avoir, compter nos sous pour pouvoir arriver chaque jour à donner, à nourrir nos enfants, à les éduquer, à leur faire découvrir la culture, les livres, le cinéma. Et quelquefois, il est difficile de dire non aux enfants, on ne peut pas parce qu'on n'a pas d'argent. Et ça, Daniel, chaque jour, on le vit, malgré toutes les saloperies que le gouvernement peut nous faire. Eh bien ça, chaque jour, on se lève chaque matin avec le même sentiment de peur de pas y arriver. Sur ce, cher Daniel, ton émission, chaque jour, je l'écoute, bien sûr. Et je veux simplement dire que je suis infidèle. Mon message, il vient de Ghislaine Onidi, qui habite Villeneuve-d'Ornon, tout près de la Bordeaux. Au revoir.
Salut, avec toutes ces grèves de journalistes, je ne sais pas si vous avez transmis la nouvelle très importante que ma petite Lila, elle vient de faire ses premiers pas. Je crois pas, hein, en tout cas je n'ai pas entendu. Sébastien Arboras.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Clairotère, l'éclipse.
Flight number 2, arriving from New York.
Ça a duré combien de temps, ce noir?
Ben, disons 12 années. 12 années complètes. J'ai perdu la vue totalement, qu'on peut appeler le noir, le 28 septembre 90. J'ai recrouvé la vue, parce qu'on dit c'est pas retrouvé, enfin. Le 25 mai 2002.
Vous vous souvenez de l'heure?
17h15.
Vous n'en croyez pas vos oreilles. Eh bien, lui n'en croit pas ses yeux. Vous avez bien entendu, monsieur René a recouvré la vue. Au bout de 4380 jours, qui n'étaient plus des jours, puisqu'il n'y avait plus de nuit non plus. Il va nous expliquer ça et va nous dire ce que nous supposons, nous les voyants, les bien-voyants, les normalement voyants, être de l'obscurité, ben c'est autre chose. En tout cas, c'est une histoire extraordinaire. Ce monsieur, Jean-Marie Dubrulle, 62 ans, au bout de 4380 jours d'absolue cécité, a soudain retrouvé la vue. Et complètement, il l'a retrouvé, complètement. Ça, c'est une histoire, vous allez voir, superbe. Et inouï, ça veut dire qu'il n'a jamais été entendu. Eh bien, il y a des mots que vous allez entendre, des images, des choses que nous n'avons jamais entendues. Mais pourtant, on en a entendu. Eh bien, non, pas ces mots-là, pas ces situations-là. Et c'est évidemment l'essentiel, donner jour. Donnez le jour, les femmes donnent le jour. Pensez au nombre de fois où nous disons jour, où nous disons lumière, où nous disons voir dans une seule journée. Bien sûr, c'est pas seulement la vue, voir, c'est aussi la vision, c'est aussi le symbole, la métaphore du jour et de la lumière et de l'obscurité et de la nuit. Et c'est ça, la lisière de ça que nous allons dans ce qui fait ce que nous sommes, c'est-à-dire le clair et l'obscur à cette limite, après le souffle. C'est une métaphore superbe à laquelle nous vous convions aujourd'hui, à l'heure où triomphent les assassins de l'avenir, les tueurs de l'espoir. Cette histoire nous dit que nous avons tout simplement une chose très 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 simple, nous avons un secret à devenir.
Je suis dans mon appartement, je suis attablé à ma table ronde, j'écoute un peu les infos, et puis devant mes yeux apparaissent deux bandes. Au fur et à mesure que je regardais, mais ça devenait bien blanc quand même. Machinalement, je passe la main devant les yeux. Une fois la main devant les yeux, je vois plus les bandes. Je retrouve les bandes, je remets la main, puis les bandes, j'enlève, je vois les bandes. 3-4 fois, je fais, j'ai mes pétards, je dis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est bon, c'est bon. Alors je me lève, bon, je contourne la table, toujours comme un non-voyant, mon table ronde pour pas éviter les angles, donc je vais vers ces bandes, je tends la main, je regarde bien, je me dis, mais c'est de la dentelle. Et après, c'est des rideaux. Alors je vois le verre, je vois la fenêtre. J'ouvre la fenêtre, je me penche. Je vois des voitures, je vois une rue pavée, mais je vois des gens marcher. Je regarde en face un immeuble avec des fenêtres bleues. Je referme la fenêtre, je vais me rasseoir. Là, je m'assois sur le lit, au bord du lit. D'un seul coup, je sens quelque chose sur mon genou. Je regarde. C'était ma chienne qui était assise puis qui avait mis sa tête. Je la regarde. Je vois ma chienne pour la première fois. Elle, c'était une labrador, mais noire. Alors, je la caresse, puis je fais, oh, mais qu'est-ce que tu es belle. Alors, les qualificatifs, elle en a eu... Je la caressais, je dis, mais tu as de beaux yeux et tout ça. Je voyais vraiment distinctement. Je suis devenu fou. Je dis, mais je voyais quand même dans la salle de bain, il y a une glace. Au départ, je rentre dans la salle de bain. Il a fallu que je ressorte. Que la salle de bain n'était pas éclairée. Je suis rentré pendant des années dans la salle de bain. Sans éclairer, je n'avais pas besoin de la lumière. Je cherchais après le bouton. Je ne savais pas où il était le bouton. Je cherchais après le bouton. Ah, une lumière qui s'allume. C'est là que je me suis vu dans la glace. Je ne suis pas trop trouvé changé, hein. À part la moustache qui me manquait. Bon, Jean-Marie, tes yeux ne sont pas esquintés. C'est vrai que j'avais les yeux en ce temps-là qui partent à droite, à gauche, à droite. Ça avait des yeux qui ballottent. C'était que des ombres.
Donc là, vous avez refait connaissance avec vous?
Et avec moi-même, exactement. Et alors là, je me suis retourné, puis en me retournant, il y avait une pendule. Une pendule orange. En forme de bouilloire. C'est là que j'ai vu qu'il était 17h15. Mais je connaissais pas cette pendule-là. C'est une pendule que une dame qui a été très gentille avec moi pendant au moins 3 ans, elle m'avait arrangé l'appartement. J'ai fait accrocher des cadres, j'achetais des cadres.
Ah oui, c'était important quand même pour vous qu'il y ait des tableaux au mur.
C'est pas parce qu'on est aveugle qu'il faut tout supprimer. Non, mais je voulais continuer à vivre comme un voyant, mais sans la vue.
Et pourtant, à cette époque-là, vous aviez perdu tout espoir de recouvrir un jour la vue.
Ah oui, c'était fini, c'était définitif. Je disais, bon, à la femme de ménage, vous me faites mes carreaux. Une fois sur deux, c'était moi qui les faisais. Ah oui. Juste parce que je vois pas que les fenêtres doivent pas être propres. J'avais même demandé l'autorisation de mettre des rideaux dans les communs et d'acheter un gros pot de fleurs avec un arbre à chaque palier. Tout ça, c'était dans ma tête. C'est pour l'imagination, pour meubler, pour dire que si une personne vient me voir, qu'elle dise, ah ben tiens, c'est joli, c'est charmant, c'est des 5 locataires, 5 hommes. J'étais le seul à faire toutes ces choses-là. Il me dit, mais pourquoi vous faites ça? Faites nettoyer la porte d'entrée, vous la faites... Il fait, qu'est-ce que ça peut vous faire parce que vous la voyez pas, la porte? Je fais, oui, mais si une personne vient chez moi, elle va dire, mais il habite où? C'est pour soi-même.
Continuez à vivre.
Continuez à vivre, normalement.
Voilà, c'est une histoire extraordinaire que celle de Jean-Marie qui, donc, au bout de 12 ans de cécité, ce soir-là, ce jour-là, à 17h15 précise, retrouve la vue. Imaginez une seconde, mais une seconde, le trouble, l'étonnement. J'ai pas dit l'enchantement, j'allais dire enchantement, non, l'étonnement.
Et alors, qu'est-ce qui se passe après, à ce moment-là? Vous découvrez dans la glace, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous faites?
Mais je vais me rasseoir sur le bord du lit. Et parce que là, je me mets à trembler. Les jambes tremblent. Je transpire. Ça me tourne. J'ai peur que la vie a basculé. Que j'ai perdu la raison. Il a fallu plusieurs fois que je fasse le tour de l'appartement, que je touche, que je vois que c'est concret et vraiment vrai. Après, j'ouvrais l'armoire, je dis, bah oui, pourtant c'est bien ça. Je regardais mon lit, j'ouvrais le tiroir, je dis, logiquement j'ai ça. Ah oui, je suis pas fou, il n'y a pas d'autre, j'ai toute ma raison. Et après, je lui dis, qu'est-ce que ça va rester? Est-ce que ça va pas repartir comme c'est arrivé? Je n'ai même pas pensé que j'avais plus ma dérite. J'avais plus de douleur. Elle a dû disparaître en même temps, parce que la première nuit, j'ai pas dormi. Je suis peut-être levé 50 fois. J'ai allumé peut-être 100 fois. Mon chien et son panier étaient à côté. Alors j'avais la lampe de chevet, parce que même un aveugle, il faut toujours qu'il ait une lampe de chevet. Pas pour lui, pour le chien. Le chien, lui, il est pas aveugle, lui. Faut pas penser qu'à soi, faut penser aussi... Bon, ça aurait été une personne, ça aurait été pareil. Là, moi, je pensais à mon chien. Je me couchais, c'était 20h30. Je prenais mes somnifères. Je savais que 5 mètres après, il n'y avait plus le bonhomme. J'éteignais, j'attendais un petit moment, savoir si j'avais vraiment bien éteint. Là, je mettais ma main sur l'ampoule. Quand l'ampoule était refroidie, je savais que c'était éteint. Ça va contrôler si c'est allumé ou éteint. C'est l'ampoule, hein. Alors, le temps que j'étais couché, là, cette première nuit, là, alors j'étais... hors de moi, j'avais pas pris de somnifères, mais... Alors bon, j'éteins, oh, dans le noir, oh, qu'est-ce qu'on est bien. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on est bien dans le noir. C'est vrai que c'est aveuglant au départ, si.
C'est pas la même nuit.
Ah non, c'est pas pareil, parce que c'est pas une nuit totale, une nuit ordinaire. C'est pas une nuit totale, c'est pas le noir absolu. Il y a toujours une lumière quelque part, mais nous, dans notre nuit à nous, en tant qu'aveugle, il n'y a rien. Il n'y a pas une lanterne au loin, il n'y a pas un avion qui passe, tic, tic, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est l'abîme, moi je dis c'est l'abîme, il n'y a rien. On est isolé. On pense que les gens ne nous voient pas. Moi, c'est ce que j'ai toujours pensé, c'est que les gens ne me voyaient pas. Je ne sais pas si elle est encore de bonne qualité, parce que je crois qu'un coup j'avais traité à une non-voyante et puis elle ne m'avait pas trop... Une toute petite musique. C'est introduction.
Bonjour. Vous vous lancez dans la tâche difficile de l'apprentissage du braille. Pour vous aider, voici une cassette sur laquelle vous pourrez trouver la composition des différents signes braille. Il est indispensable de bien mémoriser chacun des points qui composent un caractère. Ceci vous aidera grandement pour l'écriture. Voici maintenant la première série de 10 lettres. Lettre A, point 1. Lettre B, point 1.
Voilà, un jour, il a fallu que Jean-Marie Dubrulle, eh ben, écoute cette cassette et se mette voilà, à prendre le braille. Il avait une quarantaine d'années et il a perdu la vue. Et puis, miracle, il y a quelques semaines, il a recouvré la vue complètement. J'ai dit miracle, évidemment, c'est pas un miracle. Monsieur Jean-Marie Dubrulle ne veut pas qu'on parle de miracle, mais n'empêche que les scientifiques n'ont pas d'explication. C'est un cas rarissime. Voilà, les ophtalmos disent c'est un cas rarissime, mais on s'en tient à ça pour l'instant. Voilà. Alors comment c'est arrivé? Comment qui est Monsieur Jean-Marie? Eh ben c'est ce qu'il nous a raconté.
Je suis pas du Midi. Je suis originaire de la Picardie, à quelques kilomètres d'Amiens, petit village de 2300 habitants. J'étais électricien, électromécanicien.
Votre métier, vous l'aimiez?
Ah oui, mais c'était... Ben, disons, j'en ai fait... je suis un autodidacte, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris de moi-même. À regarder, à écouter, à demander. J'en étais fier de mon métier.
C'est quoi la beauté de votre métier? Racontez-moi.
Quand vous rentrez dans un appartement ou dans une villa, où il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, vous en ressortez, les gens peuvent utiliser la lumière, ça se voit pas l'électricité. On voit l'interrupteur, on voit la lampe. Mais on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur des murs. C'est fabuleux, c'est la lumière, c'est le modernisme. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de modernisme. Donc, j'ai apporté quelque chose de nouveau. Parce que moi, j'ai quand même connu, chez moi, on n'avait pas l'électricité au départ, quand j'étais jeune. C'était la lampe à pétrole. On faisait nos devoirs à la lampe à pétrole. Mais c'est vrai que quand on a commencé à avoir l'électricité, il y avait simplement que deux fils, une douille, une ampoule, et on se voyait là tous. C'est merveilleux. Donc pour moi, je faisais un métier très utile. Un jour, la fille nous envoie un courrier comme quoi que bon, ben, pour telle date, il allait se marier parce qu'elle travaillait, elle était contre-dame dans une usine. Et donc, moi, j'ai décidé de prendre quelques jours de vacances pour pouvoir remonter en Picardie et arranger le mariage, quoi. Donc, j'ai pris l'autoroute d'ici à Orange et puis bon, je suis remonté là-haut et puis j'étais dans un petit village. Je roulais peut-être à 15-20 à l'heure. Parce que, clac, il y a une rupture. C'était pas noir, c'était que des petits points blancs, comme, vous savez, comme à la télévision. Mais ça a duré une seconde ou deux, quoi. Je me suis arrêté. Et tout est revenu, sans problème. Ça m'a un petit peu intrigué. L'ophtalmo m'a fait un contrôle. Et je m'étais pas rendu compte que j'avais perdu 5 dixièmes. Ah, j'accueille. Par acquis de conscience, je suis retourné voir mon ophtalmo. Je me refais un examen, j'avais encore perdu quelques centièmes. Je reviens, 3 semaines après, reperdu encore, mais à chaque œil. Là, elle s'est inquiétée, elle m'a dit, bon, écoutez, je vais vous envoyer dans les hôpitaux. Mais il m'a vu, continuer toujours à baisser.
Au départ, vous aviez une vue parfaite?
Ah oui, une vue parfaite. 10-10, jamais j'ai eu aucun problème. Je voyais très loin, je voyais net, enfin, c'était parfait. Et puis, un jour, j'ai eu un coup de téléphone de mon ophtalmo, elle me convoquait, il fallait que je vienne avec mon épouse. Là, par contre, il fallait déjà qu'on m'accompagne. Je pouvais pas voir les trottoirs. S'il y avait un trottoir, je voyais pas, on pouvait plus travailler déjà. Parce que, bon, mais je distinguais plus. Mais on voit encore, mais c'est pas net. Mais on arrive à se diriger assez correctement, quoi.
Et ça, c'était pas une angoisse?
Si, c'est l'angoisse. Mais j'avais pas l'angoisse de perdre la vue, de devenir aveugle. Je dis, bon, peut-être que c'est un mauvais passage, puisqu'il n'arrivait pas à trouver. Et bon, mais là, elle a pas passé par quatre chemins, sachant très bien mon caractère. Elle me dit, bon, écoutez, monsieur Dubrulle, vous allez devenir aveugle. Dans 2 heures, dans 6 jours, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, on sait pas. Mais, à la vitesse que, disons, votre vue se dégrade, ça risque de se rapprocher assez rapidement. J'avais 50 ans. Ben, je me suis écroulé, quoi, en larmes. Tout est terminé pour moi, plus de travail. Et mais le jour même, dans l'heure qui suit, elle m'a dit, moi, je vous propose de rentrer dans un centre pour handicapés visuels, qui est à Nîmes. Je suis rentré le 27 août 90 dans ce centre. Et là, j'avais que la perception lumineuse, le jour, la nuit. Un mois après, le 28 septembre, j'ai entendu la sonnerie qui habituellement sonne à 7h le matin. Mais à 7h le matin, au mois de septembre, le soleil est déjà levé, il fait bon. La veille, je distinguais encore le jour et la nuit. Et là c'est la nuit. Je me suis dit, pourtant hier, j'ai pas fermé les rideaux, je vais ouvrir les rideaux. Alors j'ai contourné le lit, j'arrive à la porte-fenêtre, les doubles rideaux étaient tirés. J'ai fait coulisser la porte-fenêtre, je suis sorti sur le balcon. Là, j'ai senti le soleil en pleine figure. J'ai compris que le soleil étant devant moi, je le voyais pas. J'ai compris que c'était la fin, c'était fini, quoi. Là, c'était la rupture totale, la cécité totale. La nuit, c'était fini. C'est indescriptible tellement que c'est affreux. C'est affreux, affreux, affreux. Je suis bien tremblé, j'avais peur, je sais pas. Le docteur est venu une heure après, il m'a dit, bon, mais là, c'est terminé, c'est fini. C'est comme si qu'on n'existait plus, quoi. On n'a plus d'âme. On essaie de se rappeler les visages de ses enfants, de sa femme, de sa famille, de ses amis. Et puis on se dit, je les verrai plus. C'est comme si vous avez un album de photos et que du jour au lendemain, toutes ces photos disparaissent. Et après, c'est uniquement que le souvenir. Et les souvenirs, ça s'efface. J'ai pensé à ne plus vivre. Bon, je ne suis pas un violent, donc je me suis dit, pas d'armes, ça ne sert à rien. Pour comment à l'Institut, il n'y a pas d'armes? Ils m'avaient enlevé mon rasoir droit, parce que je me rasais au rasoir droit avant. Bon, pour commencer, ils me l'ont déjà enlevé. Bon, puisque même moi, n'étant pas violent, j'ai horreur du sang. Les chambres étaient au premier étage, il n'y avait qu'un étage. Je savais qu'en dessous c'était du béton, et puis je me suis dit, si je me balance un étage, c'est pas beaucoup. Me retrouver aveugle dans un fauteuil roulant? Non. Je dis, ben, je vais préférer quand même une disparition un petit peu plus légère. Mais je vais plus m'alimenter. Je vais mourir de faim, de soif. Je suis resté 4 jours, sans boire, sans... Donc je buvais pas, je mangeais pas. Toute personne qui rentrait, non, je veux pas vous voir, je veux pas vous voir, on le dit toujours, parce qu'il faut, c'est un mot qu'il faut jamais enlever. Et puis, au bout de 4 jours, il y a ma voisine de chambre, une non-voyante aussi, son prénom c'est Fortune, une bonne fortune pour moi, qui a frappé à la porte, elle a dit, je m'appelle Fortune, je suis votre voisine de chambre, et je suis aveugle comme vous, et moi ça fait 18 ans. Et puis elle s'est assise sur le lit, elle cherche après ma main, dans la sienne. Elle m'a dit qui elle était, qu'elle avait des enfants, mais qu'elle n'avait jamais vu. Ses enfants avaient 18 et 15 ans. J'ai dit, qu'est-ce que vous venez faire ici? Elle dit, c'est parce que moi, c'est une personne qui n'arrivait pas à se diriger seule avec sa canne dans la rue. La locomotion, partir dans la rue comme ça avec une canne, vraiment c'est atroce. C'est une peur, c'est une angoisse énorme. Et donc elle était venue pour ça, que pour ça. Elle me dit, mais pourquoi vous descendez plus déjeuner, tout ça? Je fais, moi, je peux pas vivre comme ça, c'est pas possible. Elle fait, moi aussi, je pense à tout ça. Elle dit, vous savez, on est 17 ici. Bon, sur les 17, il y a quelques personnes qui sont aveugles de naissance. Eux, ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas de se suicider, parce qu'ils n'ont jamais vu. Donc, on n'était que 4 personnes à avoir perdu la vue. Puis elle me dit, Jean-Marie, je sais que, par rapport à ce que l'on me dit, que vous êtes une personne très convenable, qui avait la chemise, qui avait la cravate, qui avait la veste, très correct, tout. C'est une image, une belle image que vous faites. Elle fait, que j'aimerais bien que vous soyez comme ça ce soir à la table. Elle fait, à ce moment-là, je vous invite à ma table. Elle dit, puis si ça marche, elle dit, ben, pendant les mois qu'on va rester ensemble, ben, on mangera côte à côte. Elle fait, je parlerai un petit peu de ma famille, puis vous me parlerez de votre famille. Donc, elle a su trouver les mots. Je suis levé, j'ai pris ma douche, je me suis rasé. J'ai bu un bon coup parce que j'avais soif. 4 jours sans boire, c'est pas... Et j'avais faim. Et c'est vrai, quand je suis descendu, le personnel, quand ils m'ont vu rentrer dans la salle, ils ont applaudi.
La vie continue.
Oui, la vie continue. À l'école, on nous apprend aussi à faire le deuil de la vue. Sinon, l'apprentissage que l'on va faire, on va pas l'apprendre correctement. Ah oui, il faut en faire son deuil, sinon on ne vit plus. On ne vit plus parce que c'est tous les jours, c'est l'angoisse le matin. On ouvre les rideaux, on sait qu'il fait jour. Catastrophe. Je vois toujours pas aujourd'hui. Et tous les jours. Non, alors que quand on arrive à en faire son deuil, ça a mis peut-être 2 ans, 3 ans, avant que je puisse dire, bon, maintenant je suis aveugle, je fais ma vie d'aveugle. Hein, donc j'ai appris à vivre comme un aveugle.
Lettre A, point 1. Lettre B, point 1 et 2.
Moi, pendant des heures, ça.
Ça, c'est une musique que vous aimez?
Ah oui.
Ça, c'est quoi, ça?
C'est une marche.
Une marche?
Une marche.
Ça se danse comment, ça?
C'est une marche, c'est un peu, pas tout à fait comme un passo doble, mais on peut faire un petit peu parfois un petit peu en valse, un petit peu marcher de droite à gauche, un peu n'importe comment, ouais, on peut faire carrément en marche, mais c'est tous les... Moi, quand j'étais à mon appartement, c'était pendant tout le temps que je n'étais pas couché, et que ça. J'avais que des cassettes. Bon, j'ai un tiroir de cassettes. Ça, c'est tous les enregistrements de la chaîne radio que j'écoute le matin.
Ah, ouais.
Que de temps en temps, j'entends TFM, tout ça.
Ah, ouais. Il n'y a pas de publicité.
Tout ça, c'est dans le jeu. Les gens qui ces cassettes-là sont des cassettes que c'est l'école des chinois des aveugles qui nous envoient par mois. C'est pas la musique. Ce sont les rapports des rapports sur les chiens guides, par rapport au travail.
Ah,
par rapport,
vous pouvez me faire écouter, maman.
Mais là, c'est de la musique.
Ah, ça, c'est la musique, ouais, d'accord. C'est dommage, je ne peux pas danser avec vous parce que j'ai le micro.
Par contre, j'ai la cassette de braille, qu'on appelle le braille. C'est un peu exceptionnel parce que logiquement, on n'a pas le droit de.
Oui, maman, vous me faire écouter.
Je pense que je vais la retrouver. Ça, c'est l'alphabet braille.
Ah ouais?
Mais vocal.
Lettre A, point 1. Lettre B, point 1 et 2. Lettre C, point 1 et 4. Lettre D, point 1, 4 et 5. Lettre E.
Voilà, alors on avait diagnostiqué une névrite optique d'origine virale et ça lui est arrivé le 28 septembre 1990. Ce jour-là, eh bien, il l'a expliqué, Jean-Marie Dubrulle a perdu la vue et 12 ans plus tard, 4380 jours et 4381 nuits après, le 29 mai dernier, à 17h15, la vue revient. Les ophtalmos, les scientifiques n'ont pas d'explication bien précise. On avait dit un virus très rare et on se contente de cette explication. Monsieur Jean-Marie, tout à fait à la disposition de la science. Ceux qui voudraient en savoir plus, il est prêt à tout maintenant. Il a une vie absolument formidable. Il se lève avec le soleil. Il n'en rate pas une. Il n'y a pas un moment de lumière et d'ombre donc. Qu'il veut rater désormais, c'est cette histoire extraordinaire qui nous réjouit évidemment aujourd'hui, même si ça a été évidemment 12 ans de galère, de descente au fond et puis de remontée avec ce malgré tout humain.
Ça vous rappelle des souvenirs, ça, Jean-Marie?
Oui, ça c'est. Et les premières paroles après, disons, mon arrivée à l'institut, à l'école, dans la classe du braille. On l'appelait Brigitte Braille. Rarement j'ai rencontré de personnes aussi douces. Ma locomotricienne, pour le braille et pour la vigie. La vigie, c'est la cuisine, le repassage. C'est l'aide de la vie journalière.
Là, je vois toutes vos cassettes. Elles ont un petit marquage en braille.
C'est en braille. Bon, là vous touchez comme ça.
Oui.
Et nous, on ne touche pas comme ça. Nous, c'est simplement effleuré. Il faut simplement. Mais alors, ils nous disent bien que notre index va être comme une aile de papillon. Donc, effleuré. Effleuré.
Montrez un peu comment vous faites.
C'est effleuré comme ça.
Vous touchez à peine.
À peine touché.
Le caractère.
Ah oui. Et donc, là, si je m'arrête là, bon, là, je sais que c'est un L.
Il faut combien de temps pour apprendre à lire en braille?
Ça peut être de 6 mois, 1 an.
Vous avez mis combien de temps?
J'ai mis 3 mois.
Oh, et vous aviez vraiment envie d'apprendre vite?
Oui, je me lançais à fond dans ce que je faisais. Et c'est comme une personne qui passe son permis, mais il a hâte d'avoir son permis pour partir seul.
Ouais.
Et donc, mais moi aussi j'avais envie de partir seul dans la vie. C'est pas évident. C'est pas évident. La plus grande difficulté, c'est la locomotion. La plus grande difficulté, c'est ça. Alors, on vous amène en ville, on vous fait faire un tour du centre-ville. Donc, il y a une façon de tenir la personne. Entre deux doigts, on doit tenir l'os de la personne qui vous conduit. Pas le bras. Le bras, vous n'avez aucune sensation. Comme ça.
Vous tenez par les deux os de mon coude.
C'est tout, là. Oui. Et moi, je suis à 20 cm derrière vous.
Ah, d'accord.
Et vous marchez normalement. Dès que vous allez monter, moi je vais savoir que vous allez monter parce que votre corps bouge. Donc automatiquement, moi je vais accompagner. Donc, on s'est un peu guidé, quoi. Mais ça n'a qu'un temps. Ça c'est pour nous habituer à marcher dans le noir, en plein centre-ville. Traverser les boulevards où les voitures, ça roule dans tous les sens, dans les deux sens. Les boulevards très larges à traverser. C'est très dangereux, alors on a peur. Et après, bon, il arrive le jour que l'on nous donne une canne. Et puis, bon, mais là, On nous apprend à utiliser, parce que là, il faut savoir utiliser sa canne. Mais quand on sait bien utiliser sa canne, jamais je ne me suis mis dans un trou. Jamais. Donc, on fait un balayage. On cherche l'obstacle. Ah, ah, là, je passe. Il faut contourner, il faut traverser. Alors, on reste sur le bord de la route et on écoute. Et là, on se met en position pour traverser. C'est tout un travail énorme, énorme.
Un parcours que vous feriez en 10 minutes, là, il vous faut combien de temps avec la canne?
2h45 minutes. Moi, au bout de 3 mois, bon, ben, je me suis débrouillé, je sortais de l'institut, je prenais le bus. J'ai été peut-être une personne qui a été assez rapide, parce que je me suis dit, bon, ben, si tu veux continuer à vivre, tu t'en sortes vite. Si ça traîne, je vais me retrouver dans un canapé, après je serai plus qu'un légume. Moi, je voulais pas ça. À 50 ans, on a encore de la vie. J'avais décidé de vivre. Je me suis donné les moyens, hein, d'être autonome.
Sortir cette rumeur de ville, c'est tout un enfer. Ça devient un monstre dans lequel il s'agit de se repérer, et qui n'a pas du tout la même signification, qui ne représente pas la même chose que pour les voyants. Et puis il y a, on a déjà assez souvent dans nos émissions rencontré des aveugles, des non-voyants, comme on veut, et il y a plusieurs catégorie, il y a ceux qui n'ont jamais vu et puis il y a ceux qui ont vu. C'est deux familles presque tout à fait différentes. Mais ce qui est toujours passionnant dans ces témoignages, les témoignages de ces expériences-là, c'est qu'évidemment ça nous fait penser à nos manques à tous, chacun. Et évidemment c'est un cadeau qui nous est fait. Parce que là, je ne sais pas où vous êtes dans votre voiture, vous êtes chez vous, vous êtes... Et je suis sûr que si vous écoutez Jean-Marie depuis le début, vous êtes en train de regarder les choses, mais tout à fait différemment, tout à fait différemment. La lumière, aujourd'hui, pour nous tous, n'a pas la même saveur.
C'est un institut qui vous refait faire les gestes de la vie. Mais on vous les apprend en tant qu'aveugle. À mettre le couvert, à s'habiller, à se faire sa toilette, à se couper les ongles, les femmes à se maquiller, à laver son linge, à repasser, à coudre, à cuisiner. Si le sel, vous l'avez trouvé à tel endroit, le sel se retrouvera 8 jours après toujours au même endroit. Le poivre, l'huile...
Trouver des repères.
Tous des repères. Tous les repères. On nous dit, bon, ben, passez-moi le sel. C'est à nous de chercher. Il faut que chaque chose soit à sa place. Si on déplace quelque chose, il faut le remettre à sa place. Si c'est là, c'est là. Si c'est pas là, alors là. C'est peut-être à 1 mètre. Et vous le trouverez pas. Donc, il faut se contrôler. Travailler sans toucher. Parce que le toucher, c'est énorme. Ça fait une partie de la vision, ça. C'est une partie de la vision, une grande partie de la vision. Ça, oui. Disons, on augmente sa sensibilité, parce qu'on l'a déjà. On doit développer tous les autres sens.
Lettre D, point 1, 4 et 5. Lettre E, point 1 et 5.
Un an et demi après, on m'a mis en invalidité. Total. Et là, ils ont tous dit que ben, c'était définitif et irréversible.
Les spécialistes vous ont dit que c'était fini.
Oui, oui. Ça a été difficile quand même. Bon, moi, je reconnaissais mes vêtements parce que j'avais fait des repères. Tout ça, c'est en mémoire. Ça peut être qu'en mémoire. Donc, je savais que tel bouton correspondait à telle couleur de chemise. Donc, La cravate était toujours sur la chemise.
Mais c'est important de continuer à porter la cravate.
Ah oui, pour moi, c'était... Ça faisait partie de ma vie, ça faisait partie de...
La cravate.
Oui, oui.
C'est un nœud à la quoi ? C'est à la française ?
C'est un double nœud.
Ça, vous pouvez le faire les yeux fermés, Jean-Marie.
Oui. Je l'ai fait pendant 12 ans. Et bien, attention, c'est qu'avant, je ne savais pas faire de nœud de cravate.
Avant d'être aveugle ?
J'ai appris à l'école. C'est tout un apprentissage. Je suis peut-être vieux jeu. Je vais au bal, là, maintenant. Hein. Je vais trois fois demain après-midi. Je danse, là. J'apprends des danses que je ne connaissais pas, naturellement.
Vous rattrapez le temps perdu ?
Oh, je sais pas si on peut le rattraper. J'étais le seul avec la cravate. Et puis, à un moment, il y a les gens, ils posent la question. Et je sais pas, on m'a peut-être dit 10-15 fois. Mais habillé comme vous êtes, vous faites pas aveugle, hein. Alors, je sais pas, l'habit fait peut-être pas le moine, mais l'habit ne fait pas l'aveugle non plus. Alors, je sais pas, un aveugle, ça va être habillé comment, là?
Parce que vous vouliez rester exactement le même.
Oui, je voulais rester, élégant.
On se demande quel écrivain, mais quel cinéaste, quel génie singulier pourrait arriver à inventer et raconter une histoire comme celle-ci avec des mots aussi forts, aussi vrais, aussi frais et aussi inouïs que cela. On continue encore, il est bientôt 18h, mais on continue encore un peu avec Jean-Marie Dubrulle.
Vous sortez de cet institut, vous avez passé 3 mois, vous rentrez chez vous, c'est difficile avec votre femme. Vous vous retrouvez aveugle, mais vous vous retrouvez aussi seul, sans femme, sans enfant.
Abandonné. C'est vrai que quand je suis rentré de l'institut avec mon épouse, mon caractère avait changé déjà. J'étais devenu difficile, je l'avoue. Puis il y avait toujours cette douleur qui était là. C'était une névrite. Névrite optique. Donc ça a commencé par la douleur, une petite douleur légère, mais qui ne s'arrête pas, qui était constante. Et par moments, j'avais une poussée de névrite. Donc pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'était intense. Mais rien ne peut l'arrêter, rien. C'est comme une brûlure de cigarette. Par rapport où c'est placé à la base du cerveau. Il y avait qu'une seule façon. Pour quelques secondes, c'était que j'appuie sur mes yeux le plus fort possible, avec les doigts. Je m'enfonçais les yeux le plus fort possible, quitte à me les crever ou quoi que ce soit. Et là, pendant quelques secondes, j'avais plus de douleur. Pendant quelques secondes, puis après, ça revenait. Elle n'a pas été préparée à ça. Il ne suffit pas que de l'affection en rentrant. Mais qu'on vive comme d'habitude. Quand ils me disent, tiens, j'ai envie d'aller faire un petit tour au spectacle, tu viens avec moi? Oui, pas de problème. Et on continue à vivre. Bon, ça n'a pas pu se faire, donc j'ai pris mes effets personnels simplement, et puis je suis parti, quoi. Bon, on ne se comprenait plus, quoi. C'est très dur de vivre seul. On est subi.
Merci Jean-Marie, c'est un reportage de Claire Auter, technique aujourd'hui Pascal Baldassari et Clotilde Thomas, c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale, mais il nous reste un peu de temps, alors on va se faire un petit coup de tête raide. Les têtes raides, ils sont ce soir, enfin tout le mois ils sont au Bataclan, et ce soir ils sont avec Famouze, La Rumeur, Rodolphe Burger, je sais pas qui c'est, et Tignous, le dessinateur Tignous. Voilà, c'est à 19h, hein, c'est dans pas très longtemps, et c'est au Bataclan, et c'est pour Act Up, Gistique, Coordination Nationale des Sans-Papiers. Vous avez compris que c'est pas du showbiz raplapla, quoi. Donc, hein,
Et bien leur disque, enfin leur dernier album, s'intitule tout simplement « Qu'est-ce qu'on se fait chier ?»
L'imagination s'arrête là où la vie commence. Arrête, ne vis pas où tu en mouriras. Imagine un champ de provisions où le doute sans doute semera foison. Nos vies coûte que coûte, nos rêves de civilisation. Civilis, civila, civilisation. Si la vie, si Lisa, Lisa avait raison. C'est pas dans les chansons, ni dans l'eau de mon vin. On fera de demain les civilisations. On fera du raffut, du bruit et du patin. Et la main dans la main, on chantera dans la rue. On fera de demain ce qu'on aura bien voulu. Si c'est pas défendu de chanter dans la rue. D'ailleurs, de la vie sans nos rêves. D'ailleurs, je ne vis pas, sinon j'en mourirai. J'imagine des terres en fusion où l'on goûte à goutte des ciels à foison. Et nos vies coûte que coûte pour la révolution. De négatives mains sur les murs en pierre du béton de demain. On lèvera nos verres, mais sans eau dans nos vins. Quand le ciel et la terre ne feront plus qu'un. Civila, civilisation. Si la vie, si Lisa, Lisa avait raison. Civila, civila, civilisation. Si la vie, si Lisa, Lisa avait raison.